Bismillah les frères, on va commencer Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on continue dans la lecture des hadiths de Boulour al-Maran sur le bon comportement. Et on est dans l'explication du hadith de An-Nawas ibn Sam'an sur la piété et le péché. Donc ici il dit, donc le Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah, وقال ابن دقيق العيد البر حسن الخلق المراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل والإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله التائبون العابدون وقوله قد أفلح المؤمنون الآيات وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآيات فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات فوجود جميعها علامة حسن الخلق وفقد جميعها علامة سوء الخلق ووجود بعضها دون بعض يدل على عدم كمالها فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. Donc ici, il cite une parole de Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, qui dit « Al-birru husnul khuluq ». Donc la piété, c'est le bon comportement. Il dit « Ce qui est voulu par le bon comportement, c'est la justice et l'équité dans les relations sociales, comme les commerces, etc. » Ce qu'on appelle « al-mu'amalat ». Et la douceur dans le débat et la discussion. Et la justice et l'équité quand tu juges. Et le fait d'être bienfaisant et de donner, et toutes les autres qualités des croyants par lesquelles Allah les a cités, notamment quand il a dit dans Surat Al-Anfal, les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'Allah est mentionné, leur cœur tremble, et les versets qui suivent. Et les versets dans Surat Al-Tawbah, At-Ta'ibun Al-Abidun, ceux qui se repentent, ceux qui adorent Allah, et le reste des versets. Et le verset au début de la Surat Al-Mu'minun, les croyants certes ont réussi, et il a cité plusieurs de leurs caractéristiques, et aussi dans la Surat Al-Furqan, quand il a dit, les serviteurs de Ar-Rahman, donc du miséricordieux, sont ceux qui marchent avec humilité sur la terre. Et il a cité plusieurs versets dans leurs caractéristiques. Donc tous des versets qui parlent des différentes caractéristiques des croyants. Donc il dit, celui qui se pose la question à propos de lui-même n'a qu'à se comparer à ces versets. Donc à ces versets qui parlent des caractéristiques des croyants. Donc s'il trouve qu'il a toutes les caractéristiques citées, alors ça c'est un signe du bon comportement. Et s'il trouve qu'il n'en a aucun, c'est qu'il a un mauvais comportement. Et s'il a certaines de ses caractéristiques et il n'en a pas d'autres, alors ça montre qu'il n'a pas, il n'est pas complet. Et donc il doit s'occuper à préserver les bons comportements qu'il a et à acquérir ce qu'il n'a pas. وَلَا يَظُنُّ ظَنُّ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ عِبَارَةٌ عَلِّي لِلْجَانِبِ وَتَرْكِ الْفَوَاحِشِ فَقَطْ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه بل حسن الخلق ما ذكرناه من صفات المؤمنين والتخلق بأخلاقهم ومن حسن احتمال الأذى. Il dit, il ne faut pas penser que le bon comportement c'est simplement le fait d'être doux et de délaisser les comportements qui sont laids, al-fawahish, c'est-à-dire les actes qui sont laids, qui sont mauvais, et que celui qui a fait ça, alors ça y est, il a corrigé son comportement. Mais le bon comportement, c'est tout ce qu'on a cité précédemment parmi les qualités des croyants. Et le fait d'adopter le comportement qui leur est propre et de supporter la nuisance des gens. وقال الشيخ أحمد حجازي في شرح الأربعين البر عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبا وندبا. Là, il cite une parole d'Ahmed Hijazi dans l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Il dit, al-bir, c'est une expression qui englobe tout ce que la religion implique, que ce soit parmi les obligations ou les choses préférables. فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِحْسَانِ. Donc c'est une expression équivalente à l'ihsan, la bienfaisance ou l'excellence. فَيَدْخُلُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ. Trois choses entrent dans al-bir. طَلَاقَةُ الْوَجْهِ, le fait d'avoir un visage détendu devant les gens. وَكَفُ الْأَذَى وَبَذْلُ النَّدَى, le fait de ne pas nuire à autrui et le fait de faire du bien à autrui. وَأَنْ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ, et qu'il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. وَمِنْهُ الْإِنصَافُ فِي الْمُعَامَلَةِ, et qu'il soit juste et équitable dans ses relations avec les autres. وَالرِّفْقُ فِي الْمُجَادَلَةِ, et qu'il soit doux quand il discute et qu'il débat avec quelqu'un. والعدل في الأحكام et que lorsqu'il juge qu'il soit juste والإحسان في السر et qu'il soit bienfaisant et obéissant envers Allah. Donc l'ihsan, ça peut être ihsan envers Allah, c'est-à-dire qu'il adore Allah comme on l'a vu, comme si Allah le voyait, ou plutôt comme si lui voyait Allah, ou alors l'ihsan avec les gens. Donc là, quand il dit l'ihsan fi sir, ça englobe les deux, et dans le secret, c'est-à-dire pas seulement devant les gens. Wal-ithar fi l'usr, et le fait de préférer les autres à sa propre personne, même dans la difficulté. Wa-husn al-suhba, et le fait d'être de bonne compagnie pour autrui. Wa-lin al-janib, et le fait d'être doux et de bonne fréquence, c'est-à-dire tu es quelqu'un de doux à fréquenter. Wa-ihtimal al-adha, et le fait de supporter les nuisances des autres. Wa-fi'l al-wajibat wa-ijtinab al-muharramat, et le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Donc c'est tout ça le bon comportement, al-birr. Wal-ithm huwa ma athara fi as-sudur wa ja'a dayyqan wa ittiraban fa lam yansharih lahu as-sadr. Donc il dit al-ithm, le péché, c'est ce qui a un effet dans les poitrines, c'est-à-dire on sent que la poitrine elle se serre et elle est perturbée à cause de cette chose. مع هذا فهو عند الناس مستنكر, et qui est quelque chose que les gens n'aiment pas et qu'ils blâment. بحيث يكرهونه عند اطلاعهم عليه, dans le sens où lorsqu'il s'est dévoilé et qu'il le découvre, il n'aime pas cette chose. وهذا هو اعلى مراتب معرفه الاثم عند الاشتباه وهو ما استنكر الناس فاعله وغير فاعله. Et voilà la plus grande, le plus grand degré pour connaître ce qui est un péché et ce qui est mauvais lorsque c'est quelque chose de douteux. C'est que les gens n'aiment pas cette chose, ou alors n'aiment pas celui qui le fait. ومن هذا قول ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. Et dans ce sens, il y a la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui disait « Ce que les croyants voient bien, considèrent comme bien, c'est bien auprès d'Allah. Et ce que les croyants considèrent mauvais, c'est mauvais auprès d'Allah. » وَفِي الْجُمْلَا فَمَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ فَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ فِيهِ إِلَّا طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Et donc il dit de façon globale, ce sur quoi il y a un texte, alors il n'appartient aux croyants que d'obéir à Allah et à son messager, en ce qui concerne la chose. Comme Allah dit, il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont jugé d'une chose, d'avoir le choix à ce sujet. C'est-à-dire, ce qui leur revient, c'est seulement de se soumettre. Et il doit accueillir ça avec une poitrine ouverte, c'est-à-dire avec sérénité et satisfaction. فَإِنَّمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ وَالْرِضَى بِهِ وَالْتَسْلِيمُ لَهُ. Parce que ce qu'Allah et son messager ont légiféré, il nous est obligatoire d'avoir foi en cette chose et d'être satisfait et de s'y soumettre. كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Comme il est dit dans le verset, par ton Seigneur, ils n'auront pas la foi tant qu'ils ne te prennent pas comme juge dans leur dispute. فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, c'est-à-dire dans les problèmes qu'ils ont les uns envers les autres. Donc là, en fait, pourquoi il dit ça? C'est pour dire que tu ne dis pas quand quelque chose est clairement haram, et tu te dis, ben, je ne trouve rien dans mon cœur vis-à-vis de ça, non. Si la chose, la religion, elle nous dit que telle chose, elle est bien, ou telle chose, elle est mauvaise, là, on n'a pas besoin de considérer ce que le cœur, il dit. C'est pour ça, il dit d'abord, il parle de ce qui est ma warada fihi nas, c'est-à-dire ce sur quoi il y a un texte. Là, on se soumet. Maintenant, il va passer à ce sur quoi il n'y a pas de texte. Donc, il dit وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ نَصٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا عَمَّنْ يُقْتَدَى بِقَوْلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ فَإِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ الْمُطْمَئِنِّ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ الْمُنْشَرِحُ صَدْرُهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ مِنْهُ شَيْءٌ وَحَالَ فِي صَدْرِهِ بِشُبْهَةٍ مَوْجُودَةٍ ولم يجد من يفتيه فيه بالرخصة ولا من يخبره عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. Il dit donc, en ce qui concerne les choses sur lesquelles il n'y a pas de texte venant d'Allah et de son messager, ni de ceux dont on suit les paroles et dont on suit la guidée parmi les compagnons du prophète et les salafs de cette communauté. Alors quand il y a quelque chose qui vient dans la personne du croyant, c'est-à-dire un genre de doute, Mais là, il parle du croyant, il dit Al-Mu'min, Al-Mutma'innu qalbuhu bil-Iman. Le croyant dont le cœur est serein par la foi, c'est-à-dire le croyant complet, qui a dans son cœur la lumière de la connaissance et de la certitude. Alors, quand il ressent un doute vis-à-vis de quelque chose à propos duquel il n'y a pas de texte, وَحَاكَ فِي صَدْرِهِ بِشُبْهَةٍ مَوْجُودَةٍ, et qu'il a une shubha dans sa poitrine, c'est-à-dire ça le perturbe dans sa poitrine, un doute au niveau de la chose, est-ce qu'elle est interdite ou pas, et qu'il trouve personne qui lui fait une fatwa pour lui répondre et pour lui dire que c'est licite, ou personne qui lui indique son opinion, sauf il va trouver quelqu'un, mais quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance dans sa science ou dans sa religion. Alors il dit ici, alors le croyant il revient à ce qui le perturbe dans sa poitrine, même si les gens ils lui font le fatwa, c'est-à-dire même s'ils trouvent des gens de la fatwa, mais qui sont connus pour le fait de suivre leur passion ou de trop faciliter, ils lui disent c'est permis et c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de texte, mais lui il trouve qu'au fond de lui ça le perturbe et c'est un vrai croyant, alors il doit délaisser cette chose. Le jugement ça va être ce qu'il y a dans sa poitrine, et si on suit ça, on va moins se prendre la tête avec plein de questions, parce que tous les jours il y a des gens qui me posent 50 000 questions. Voilà, par exemple, je vends des sandales, mais les sandales elles cachent pas le pied et c'est des sandales pour femmes. L'autre il vient, il me dit je vends ça, l'autre. Et tous en vérité, souvent les gens ils viennent me poser des questions et ils savent, au fond d'eux ça les gêne. C'est-à-dire ils trouvent des ulamas qui disent bon, c'est licite parce que tant que le produit en lui-même il est licite, bah, tu peux le vendre à qui tu veux et tu regardes pas ce qu'il va faire. D'autres ils leur disent non, si tu sais qu'il va faire du haram avec, t'es pratiquement sûr. Et que le truc en lui-même il supporte du halal et du haram, mais tu sais que la majorité de ta clientèle ils vont faire du haram avec, tu le vends pas. Donc il trouve là et là. Celui qui veut faire, il va dire ben, tel shir il a dit que je peux. Celui qui veut l'interdire aux autres, il va dire tel shir il l'a interdit. Donc là c'est ambigu. Mais là il faut revenir à ce qu'on appelle al-wara, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de ce qui est douteux. Donc si tu trouves au fond de toi un doute et ça te perturbe et tu sens que c'est mauvais, et t'as, parfois, comme il dit ici dans le hadith, t'aurais honte que les gens ils le découvrent. Qu'ils savent que les frères, par exemple, qui sont dans la rue, ils sachent que tu vends telle ou telle chose. Alors ça prouve que c'est mauvais. Il faut que ça, tu le prennes comme jugement. Et tu t'écartes de cette chose. Parce que il faut, comme dans le hadith qui est dans les 40 hadiths, comme quoi il y a des choses clairement licites et des choses clairement interdites. Et entre les deux, il y a les choses ambiguës. Donc celui qui les délaisse, il aura sauvé sa religion et son honneur. Et comment parfois, donc dans certains cas, tu connais les choses ambiguës et comme quoi il faut les délaisser, comme il a cité la parole du savant ici, c'est quand la chose, il n'y a pas de texte à son sujet, et tu trouves pas de savant à qui poser la question, ou tu trouves pas de parole de savant à ce sujet, ou alors tu trouves une parole de savant, mais qui te dit c'est licite, mais tu sais que ce savant ou ce prêcheur, c'est quelqu'un qui est laxiste et qui est connu pour suivre ses passions. Et toi, tu au fond de toi, t'es persuadé que c'est mauvais. T'as pas un verset du Coran, t'as pas un hadith, mais tu le sens. Alors là, il faut délaisser la chose. Ça fait partie des ambiguïtés. Et comme je disais, si on revient à cette règle-là, il y a beaucoup de questions qu'on posera plus. Parce que des fois, tu trouves beaucoup de gens, ils posent des questions, alors qu'au fond de lui, il y a déjà la réponse. Il sait déjà que même si tu lui dis c'est licite, il va se sentir mal à le faire. Et ben, si tu te sens mal, fais-le pas et puis c'est tout. Délaisse pour Allah et Allah il va te remplacer par mieux. Ensuite il dit wa qala al-shaykh Ahmed Hijazi al-ithmu huwa al-dhanb wa ma haka ay rasakha wa athara fi an-nafs ittiraban wa qalaqan wa nufuran wa karahiyatan bi'adam tumaninatiha. Il dit, donc il continue avec une parole de Cheikh Ahmed Hijazi, il dit le péché, al-ithm c'est al-dhanb, donc c'est deux synonymes, c'est-à-dire le péché, et c'est ce qui s'implante, rasakha, c'est-à-dire qui s'implante dans ta poitrine. وَأَثَّرَ فِي النَّفْسِ اضْطِرَابًا وَقَلَقًا وَنُفُورًا, et qui va avoir pour effet dans ta personne de la contradiction et de la perturbation. C'est-à-dire une chose donc que tu fais et tu vas pas en être serein à cause de cette chose que tu as fait. Donc ça c'est l'ithm, c'est ça le péché.
وكرهت أن يطلع عليه وجوه الناس وأماثلهم الذين يسخرون منه وذلك أن النفس لها شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وما تذم عاقبته ولكن غلبت عليها الشهوة حتى أوجبت لها الإقدام على ما يضرها Et c'est aussi la chose dont tu détesterais que les gens ils la découvrent. C'est-à-dire, ils aimeraient, t'aimeraient pas ce que les gens ils sachent que tu fais telle ou telle chose. Donc cette chose-là, c'est l'ithm. Il dit parce que l'âme humaine, elle est faite de sorte que, avec le fitra, avec la nature, elle sait, elle sent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Elle sait les choses qui sont louables et elle sent les choses qui sont blâmables. Mais ses désirs et ses passions, elles prennent le dessus sur elle jusqu'à la faire tomber dans ce qui est mauvais. Mais sinon, à la base, elle sait. Pour une âme humaine, bien sûr, qui est wa'tadila, bien sûr, qui est saine, entre guillemets, qui est équilibrée. Elle sait ce qui est mauvais et ce qui est bon, mais c'est ses passions qui vont la pousser à faire quand même ce qui est mauvais.
ووجه كون كراهة الناس على الشيء يدل على أنه إثم أن النفس بطبعها تحب الاطلاع على خيرها وتكره ضد ذلك.
Il dit et pourquoi, c'est-à-dire pourquoi le fait que les gens, le fait que tu n'aimerais pas que les gens découvrent la chose, ça montre que cette chose c'est un péché. Pourquoi? C'est parce que l'âme humaine dans sa nature, elle aime que les gens y voient ce qu'elle fait de bien, et elle n'aime pas que les gens y voient ce qu'elle fait de mal. Donc si une chose, t'aimerais pas que les gens ils la voient, ça fait que c'est qu'elle est dans quelle partie? Dans le mal, pas dans le bien. Sinon t'aimerais bien que les gens ils la voient. À partir de là, l'ostentation a détruit beaucoup de gens. Parce que justement, l'être humain aime qu'on voit ce qu'il fait de bien. Donc c'est pour ça que l'ostentation elle a détruit beaucoup de gens. Parce que tu aimes qu'on voit ce que tu fais de bien. Et donc ta niya elle change.
فَبِكَرَاهَتِهَا اِتِّلَاعَ النَّاسِ يَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌ وَإِثْمٌ.
Donc si tu détestes, c'est-à-dire si l'âme humaine ou la personne déteste à propos d'une chose qu'elle fait, que les gens le découvrent, c'est que ça fait partie du péché.
Donc on passe au hadith suivant. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم.
Donc ici dans le hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous êtes à trois, que deux d'entre vous ne s'entretiennent pas en dehors du troisième, jusqu'à ce qu'ils se mélangent avec les gens, puisque cela va l'attrister. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. C'est-à-dire que quand on est à trois, il ne faut pas que deux personnes elles se parlent et que la troisième elle n'entend pas ce qu'elles disent. Parce que ça va l'attrister jusqu'à ce que se mélange, c'est-à-dire qu'il soit plus de trois. Donc il dit ici, ma yu'khadu min al-hadith, al-islamu ya'muru bi jabri al-qulub wa husni al-mujalasati wal-muhadatha. Donc l'islam ordonne de relier les cœurs entre eux et ordonne d'avoir un bon comportement lorsqu'on est assis avec les gens et lorsqu'on parle avec eux.
Wa yanha 'an kulli ma yusi'u ila al-muslimi wa yuhzinuhu wa yujibu lahu adh-dhunub.
Et il interdit tout ce qui fait du mal aux musulmans et tout ce qui l'attriste,
وَيُوْجِبُ لَهُ الظُّنُونَ,
et qui va l'amener à avoir des soupçons et des mauvaises pensées.
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَإِنَّهُ إِذَا تَنَاجَ اثْنَانِ وَتَسَرَّى دُونَ الثَّالِثِ الَّذِي مَعَهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُسِئُهُ وَيُحْزِنُهُ.
Parmi ces choses, c'est que quand ils sont à trois, alors deux personnes d'entre elles, si elles se parlent en secret et que le troisième il n'entend pas, ça va lui faire du mal et ça va l'attrister.
وَيُشْعِرُهُ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمَا فِي حَدِيثِهِمَا.
Et ça va lui faire penser qu'il ne mérite pas, c'est-à-dire auprès des deux personnes, de rentrer avec eux dans leur discussion.
كَمَا يُشْعِرُهُ بِالْوِحْدَةِ وَالْإِنْفِرَادِ.
Et ça va lui faire ressentir la solitude.
ثَانِيًا مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَصَاعِدًا فَلَا بَأْسَ مِنَ التَّنَاجِي وَالتَّسَارِ.
Ce qu'on retire aussi du hadith et ce qu'on en comprend, c'est que s'ils sont plus de trois, si par exemple ils sont quatre ou plus, alors là il n'y a pas de mal à ce que deux d'entre eux ils se parlent secrètement. Pourquoi? Parce que le troisième, il aura quelqu'un avec qui rester. Donc il n'a plus à être triste ni à se sentir seul.
وآداب المجالس هي الأنس والانبساط من الجميع وتبادل الأحاديث المفيدة والنكات اللطيفة والمزاح المعتدل إذا كان بين الأصحاب الذين ارتفعت بينهم الكلفة.
Il dit et les politesses de l'assise, le majalis, c'est-à-dire quand on s'assoit entre nous, c'est al-uns, c'est-à-dire entre guillemets la sociabilité, le fait d'être facile d'accès. Walinbisat min al-jami', le fait d'être l'inbisat, d'être détendu avec autrui. Et le fait de se raconter des histoires qui sont bénéfiques, ou alors des petites plaisanteries. Al-nukat. Walmizah al-mu'tadil. Et aussi la plaisanterie qui est équilibrée quand c'est entre des personnes entre qui la honte, entre guillemets, ou la retenue, elle est enlevée. C'est-à-dire, tu peux avoir un ami avec qui tu peux plaisanter, alors que peut-être avec autrui, que tu l'as jamais rencontré, tu ne vas pas plaisanter. C'est ça qui veut dire, irtafa'at baynahumul kulfa, ça veut dire, ils sont plus, il n'y a plus les manières entre eux, parce que ça y est, ils se connaissent depuis longtemps. Donc là, il n'y a pas de mal à plaisanter, si c'est des plaisanteries qui sont licites et qui sont équilibrées.
ومن التناجي المكروه أن يتكلم بلغة لا يحسنها الثالث الذي معهما فهذه لا حكم التسري والتناجي الممقوت.
Et il fait partie aussi de التناجي, c'est-à-dire la discussion comment dire, intime entre guillemets, qui est interdite et qui est détestée, c'est que la personne, que les deux personnes, elles parlent une langue que la troisième elles connaissent pas. Là ça revient au même, ça rentre dans le jugement du hadith, parce que ça revient au même. Qui parle en secret à voix basse, ou alors qui parle à voix haute mais dans une langue qu'il ne comprend pas, ça revient au même. Il va se dire, bah, peut-être il parle sur moi, ou peut-être il considère que j'ai pas à rentrer avec eux dans leur discussion, que je mérite pas de parler avec eux. Il va se sentir seul, ça revient au même.
ظاهر الحديث أن تناجي المذكور محرم لأن النهي يقتضي التحريم فإن لم يصل إلى درجة التحريم فأقل الأحوال الكراهة الشديدة.
Donc il dit, ce qui apparaît du hadith, c'est que ce qui a été cité dans le hadith, c'est interdit de façon haram, c'est-à-dire que ça supporte, ça implique un péché. Puisque quand il y a une interdiction dans un texte, ça implique quelque chose de haram. Ça indique une interdiction qui implique un péché. Il dit, mais si on dit que le texte, il ne va pas jusqu'à cette interdiction, tahrim, qui implique un péché, alors au moins, c'est al-qarahatu shadida. C'est détestable, mais de façon très intense. Là, en vérité, on peut dire que c'est haram carrément, puisque ça rentre dans le fait de blesser un musulman. Et on va voir, quand on va étudier tous les hadiths, vous allez voir que l'esprit des hadiths à chaque fois du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'interdiction de blesser un musulman.
Hadith suivant, il dit, « وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه.
Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Bukhari Muslim que l'un d'entre vous, c'est-à-dire un homme, ne doit pas faire lever un homme de là où il est assis et s'y asseoir à sa place. Mais tafassahu wa tawassa'u, c'est-à-dire faites de la place entre vous. En fait, le hadith, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tu ne dois pas dire à quelqu'un lève-toi et prendre sa place pour t'asseoir à sa place, mais il faut faire de la place, que les gens qui sont assis dans un endroit, ils s'écartent pour laisser les gens s'asseoir.
Donc il dit, هذا الحديث فيه أدبان من آداب المجالس.
Donc ce hadith, il indique deux politesses, deux comportements parmi les comportements de l'assise.
الأول أنه لا يحل للرجل أن يقيم الرجل الآخر من مجلس سبقه إليه قبله.
La première, c'est qu'il est interdit à un homme de faire se lever un autre homme de son assise à laquelle il l'avait précédé.
ثم يجلس فيه, et ensuite lui s'y assoit.
فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. Celui qui a quelque chose en premier, c'est lui qui en est le plus digne, si cette chose elle est licite.
ومن سبق إلى مال إلى ما لم يسبق إليه فهو له.
Il dit ici, je ne sais pas si c'est un hadith parce qu'il l'a mis entre guillemets, il dit celui qui prend sabaqa ila shay, c'est-à-dire il fait quelque chose en premier, ou il a en premier une chose à laquelle il n'a pas été précédé, alors cette chose elle est à lui. Donc là, en l'occurrence, il parle de la place, c'est-à-dire le premier qui s'assoit une place et il n'y avait personne qui l'avait prise, eh ben ça a lui la place.
سواءٌ كان المقيم وجيها أو غير وجيه فإن السابق أحق بمكانه.
Que ce soit quelqu'un qui a une grande position, c'est-à-dire un chef ou quelque chose comme ça, ou pas, ou un homme ou pas, parce que c'est celui qui a pris la place qui en est plus digne, on ne regarde pas qui il est.
سواءٌ أكان في مسجدٍ أو مجلسٍ أو حفلٍ أو غير ذلك.
Que ce soit à la mosquée, ou dans une assise, ou dans un repas de fête, ou quoi que ce soit.
الثاني أن المتعين على الحضور أن يتفسحوا للقادم حتى يوجدوا له مكانا بينهم.
la deuxième politesse à suivre, c'est que les gens qui sont présents, al-hudur, ils doivent faire de la place à celui qui arrive jusqu'à ce qu'il trouve une place.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
Et dans le verset il est dit dans sourate al-mujadala, ô vous qui avez la foi, quand il vous est dit faites la place dans les assises, alors faites la place, Allah yafsah illahu lakum, entre guillemets, Allah vous fera de la place, c'est à dire c'est une récompense équivalente à l'acte que vous avez fait.
قال القرطبي أمر الله المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض حتى يتمكنوا من الاستماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إليه.
Al-Qurtubi, rahimahullah, il a dit, dans l'interprétation de ce verset, Allah il a ordonné aux musulmans, entre eux, la solidarité, la sympathie entre eux. Jusqu'à tel point qu'il leur a ordonné que les uns et les autres ils se fassent de la place. Pour que chacun ait pu s'écouter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le regarder. C'est-à-dire là, ça parle bien sûr à l'époque du prophète. Donc c'était l'assise du prophète. Donc Allah il a ordonné aux musulmans de faire de la place, que chacun ait puisse profiter de regarder le prophète et de l'écouter sallallahu alayhi wa sallam.
قال الصحيح أن الآية عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر سواء أكان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق له. قال صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. رواه أبو داود.
Il dit, donc là c'est toujours la parole de Qurtubi en fait, ce qui est vrai à propos du verset, c'est que c'est général à toute assise, c'est pas seulement pour l'assise du messager d'Allah. Donc c'est vrai pour l'assise du messager d'Allah et toute assise dans lesquelles les musulmans ils s'assoient pour le bien et pour la récompense, comme que ce soit une assise de guerre ou une assise de rappel ou l'assise du jour du Jumu'a. Il dit à chaque fois, celui qui a pris un endroit, c'est lui qui a fait le plus digne et c'est lui qui a droit à cette place. Et il cite le hadith, donc en fait c'était bien un hadith qui est dans les Sunan d'Abi Daoud, qui dit celui qui prend en premier quelque chose, alors il en est le plus digne, et c'est à lui que ça revient.
قال أيضا قال علماؤنا هذا يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه بأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به.
Il dit aussi, le ulama, donc là il parle de Al-Malikiya, puisque c'est le Qurtubi qui parle, le ulama ont dit, cela prouve que le fait de dire qu'il est obligatoire, c'est-à-dire وجوب اختصاص الجالس بموضعه, c'est-à-dire que la personne qui est assise, son, là où il est assis, ça lui revient. Et ça, c'est obligatoire. Jusqu'à ce qu'il se lève de cet endroit. Puisque si il lui revient après qu'il se soit levé, alors avant qu'il s'enlève, ça lui revient encore plus. En fait, là, je vous avoue, j'ai traduit tel quel, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il veut dire.
En fait, je comprends la première partie, parce qu'il dit, ça prouve que la parole de nos ulama, quand ils ont dit qu'il est obligatoire que l'irtisas est déjà ici bimaudi'i, c'est-à-dire que celui qui est assis, l'endroit il lui revient, irtasubi'i, c'est sa place. Il a an yaqumamin, jusqu'à ce qu'il se lève de cette place. Donc là, c'est clair. C'est-à-dire, tant qu'il ne s'est pas levé, cet endroit, il n'y a personne qui peut venir lui dire pousse-toi de là, ou alors lève-toi et moi je vais m'y mettre. Comme le hadith dit.
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَوْلَى بِهِ بَعْدَ قِيَامِهِ فَقَبْلَهُ أَوْلَى مِنْهُ أَوْلَى بِهِ. Là je vois pas. Là. Je sais pas, alors je préfère pas essayer d'interpréter. Si vous savez quelqu'un qui connaît ou il arrive à vous faire comprendre cette phrase, demandez-le, Inch'Allah. Moi j'arrive pas.
Donc on passe au hadith suivant. En tout cas, donc pour résumer, le hadith nous indique deux politesses. Le premier, c'est de ne pas faire lever quelqu'un de sa place pour lui prendre, quel qu'il soit. Donc que ce soit quelqu'un de noble ou pas, ou de respecté, il n'a pas à faire lever quelqu'un ou lui faire bouger de sa place pour la prendre. C'est-à-dire, celui qui prend une place dans une assise, c'est sa place. Et personne n'a le droit de leur déplacer. La deuxième politesse, c'est de laisser la place aux gens et au maximum de le laisser de la place aux musulmans pour qu'ils puissent s'asseoir dans les assises.
Donc regardez jusqu'à maintenant à chaque fois la morale des hadiths. C'est-à-dire si on retire un esprit général des hadiths, à chaque fois c'est le fait de ne pas blesser. Parce que si tu lèves la personne, tu lui dis bouge de là, parce que par exemple toi t'es quelqu'un, t'es noble, et tu sais qu'il va te, il va pas oser te refuser, ben tu lui as fait du mal. Parce que peut-être il profitait de sa place et toi tu l'as bougé de sa place. Et aussi le fait de laisser la place, parce que peut-être un musulman qui arrive dans une assise, il veut profiter. Et toi, t'es là, t'es bien accoudé avec tes jambes, tu prends 1m70 de place, et lui, mais ce qu'il voudrait s'asseoir, il va pas s'asseoir. Et donc il pourra pas profiter, donc comment il va repartir? Il va repartir le cœur brisé. Donc en fait, à chaque fois, quand vous regardez, la morale du hadith, c'est de pas casser les musulmans. Comme le hadith auparavant, quand il dit de pas parler en secret, et de laisser un troisième, pourquoi? Parce que ça va lui casser ça, ça va lui faire mal au cœur. Ça va le rendre triste. Donc de façon générale, regardez, l'esprit des hadiths, c'est ça. C'est de ne pas faire du mal et de ne pas blesser un musulman. Ensuite, il dit, hadith d'après, « Wa'an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, idha akala ahadukum ta'aman, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha, aw yul'aqaha, muttafaqun alayhi. » Ici, le hadith, il dit, dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, il dit, lorsque l'un d'entre vous mange de la nourriture, qu'il n'essuie pas sa main, ou plutôt qu'il n'essuie pas ses mains, jusqu'à ce qu'il la lèche. Pardon, qu'il n'essuie pas sa main jusqu'à ce qu'il la lèche ou qu'il la fasse lécher. Ça, c'est dans les deux sahihs. Donc, il dit, pour commenter, Ni'matullahi ta'ala fit ta'ami wa sharabi laha hurmatuha wa karamatuha. Il dit, le bienfait d'Allah, dans sa nourriture et dans la boisson qu'il nous a donnée, ça a une valeur et c'est sacré. C'est-à-dire, pour les musulmans, dans la religion musulmane, le fait d'avoir de la nourriture et de la boisson, c'est quelque chose qu'on doit respecter, on doit lui donner de la valeur. C'est quelque chose de sacré. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْآكِلَ إِذَا لَمْ يَلْعَقْ مَا بِأُصْبُعِهِ أَوْ يَدِهِ مِنْ بَقَايَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ. Parmi ce qui montre l'aspect sacré et respecté de la nourriture, c'est que celui qui mange, si il n'a pas encore léché ses doigts ou sa main, et donc il n'a pas encore léché les restes de nourriture qu'il y a dans sa main ou ses doigts, il ne doit pas tout de suite laver sa main. فَيَجْرِ الطَّعَامُ مَعَ الْمِيَاهِ الْوَسِخَةِ وَالْأَقْذَارِ وَالْأَبْوَالِ. De fait qu'il va aller se laver les mains, et le reste de nourriture qu'il y a peut-être sur ses mains, ça va courir dans les robinets ou dans les lavabos, ou dans les ordures, avec l'urine, avec les saletés. فَإِنَّ هَذَا مِنْ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَإِهَانَتِهَا. Et ça fait partie de ce qu'on appelle kufr al-ni'ma, le fait de ne pas être reconnaissant et de renier un bienfait et de mépriser un bienfait d'Allah. وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَلْعِقَ يَدَهُ وَأَصَابِعَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا أَثَرٌ مِنَ الطَّعَامِ الرَّاسِخِ. Mais donc il doit lécher son doigt ou sa main jusqu'à ce qu'il ne reste rien du tout de la nourriture qui était dedans. أو يلعقها من له عليه دلة وميانة كالولد والزوجة والخادم ونحوهم. Ou alors qu'il la fasse lécher par celui qui est sous son ordre, comme un enfant ou une femme ou une servante. Regardez l'esprit de l'islam par rapport à notre contexte actuel. Maintenant, on parle même pas des mariages, parce que les mariages, ça c'est le pire, c'est le top du gâchis et du kufr al-ni'ma. Mais même dans notre vie quotidienne, on fait des trucs comme ça. C'est-à-dire combien, par exemple, il reste un bout de tartine, tu le jettes, alors que tu peux très bien le mettre de côté, tu le manges, au lieu de prendre un beau bout de baguette qui est bien beau, ben c'est rien, tu prendras le bout de baguette qui restait du repas précédent. Au moins, tu jettes rien. Combien on jette? C'est-à-dire, on jette énormément, et ça fait partie de Kufan Ni'ma. C'est mépriser les bienfaits d'Allah envers nous, et c'est un signe de... C'est une caractéristique des kuffar. C'est pas une caractéristique du musulman. C'est-à-dire, c'est un caractère de non-musulman. C'est un caractère de celui qui croit pas en Allah et qui a pas de reconnaissance en Allah Azza wa Jal. Et nous, on a été ordonné de ne pas ressembler aux non-musulmans. Et ça en fait partie de reconnaître et de considérer les bienfaits de la nourriture. Et la nourriture, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, ainsi que la boisson, à tel point que regardez l'islam, comment il a légiféré. Sachez que celui qui est en état de janaba, il ne doit pas manger sans avoir fait des ablutions. C'est-à-dire, ce n'est pas haram, mais c'est fortement... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormait pas, et il ne mangeait pas, et il ne buvait pas, en état de janaba sans avoir fait ses ablutions. Regardez le respect pour la nourriture. Il fait ses ablutions pour manger s'il est en état de janaba. Il ne mange pas en état de janaba. Et il y a des doigts à dire, et il y a des politesses à respecter. Tout ça pour montrer que le musulman, quand il est devant sa nourriture, il considère que ça, c'est un bienfait d'Allah Azzawajal. Et à tel point qu'à la fin, il dit la dua. À chaque fois, il remercie Allah, il loue Allah. Même s'il mange, ils disent les sahaba, même quand il mangeait la chose la plus petite, il disait, il remercie Allah Azzawajal. Même tu manges une date, même un bonbon. Parce que nous, on a tendance, on grignote toute la journée. Et les gens qui ont tendance à grignoter, ils disent pas la dua. Il faut dire la dua. Mange même un pims ou un pépito. Hein? Dis la dua, même si tu n'as mangé qu'un pépito. Tu vas chez quelqu'un et tu as mangé ton gâteau ou un fruit, dis la dua. Tu sais pas voir Allah avec ce fruit, ce qui t'a, l'énergie qu'il t'a donnée, ce que ça va faire dans ton corps comme bienfait, etc. Donc il faut, ça c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc les musulmans, ils doivent s'efforcer de respecter la nourriture et de pas gâcher. Ça veut dire, il faut que tu te... Et l'homme avec sa femme aussi, il faut qu'il s'organise et qu'ils se creusent l'esprit pour gâcher le moins possible de leur nourriture. Ça veut dire, si tu as remarqué que tu achètes une baguette à telle fréquence et qu'à chaque fois tu jettes le pain, achète moins de pain, subhanallah. Ça, c'est des choses simples. Si tu as remarqué que quand tu achètes tant de yaourts, à chaque fois il y en a qui finissent à la poubelle, eh ben, arrête d'acheter autant de yaourts. Si tu as remarqué que à chaque fois le paquet, le fromage complet n'est jamais déballé, il dépasse un mois la date et tu le jettes, arrête d'acheter du fromage. Ça, c'est des choses toutes bêtes, voilà. Hein. Mais si tu regardes autour de toi, dans les amis, dans le voisinage, dans la famille, ça, tu le vois. On jette même des choses qui n'ont même pas été déballées, elles sont jetées. Si tu sais que tu es comme ça, ben, subhanallah, sois clairvoyant. Arrête d'acheter. Achète moins. Achète par exemple, plus fréquemment, tu vas faire tes courses. Tu fais tes courses une fois par semaine, deux fois par semaine, parce que tu sais que sinon tes dates elles vont dépasser, tu vas jeter. Le moins possible il faut jeter. À tel point, imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit de lécher les doigts. Le shir il dit ici c'est pour pas que quand tu te laves les mains, le reste de la nourriture elle part avec l'eau dans les saletés. Alors que nous c'est sans même lécher les doigts, direct la nourriture on la met dans la poubelle tout de suite. Ou alors par exemple ce qui concerne la viande qui est sur les os des animaux. Il faut savoir que ça c'est une nourriture pour les djinns. Donc ça a son importance. Celui qui peut, je dis bien celui qui peut parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on habite en ville, au maximum, celui qui peut les eaux, les jeter dans des endroits où il sait que les djinns ils pourront les acquérir et manger dessus, eh bien, qu'il le fasse. Est-ce que ça te fait du mal si tu prépares un petit sac des eaux de la viande et tu vas les jeter une fois par semaine dans l'herbe? Est-ce que tu vas mourir parce que tu as fait ça? C'est pas un gros effort qui t'est demandé, ça c'est un respect envers la nourriture. Parce que l'os, faut que tu saches que l'os, quand tu le jettes, les djinns ils viennent, les djinns musulmans, ils viennent manger dessus. Tout ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, c'est-à-dire qui a été gorgé halal, eh bien l'os, eux, ils retrouvent la viande reformée comme toi tu l'avais. C'est-à-dire ils retrouvent le poulet, mais dans leur monde à eux. Et ils mangent le poulet comme toi tu l'as mangé. Ça c'est dans les sahih, ça. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de s'essuyer de nos besoins avec des os. Et il a dit parce que, à Ibn Mas'ud, à Abu Huraira, quand il lui a dit pourquoi l'os on ne peut pas s'essuyer avec, il lui a dit c'est la nourriture des djinns. Donc c'est pour vous dire tout ça, comment l'islam, la morale de l'islam c'est le respect de la nourriture. Et c'est complètement le contraire à l'esprit occidental. Et c'est un remède à la société actuelle. Parce que la société actuelle, ils se plaignent, la maladie, le gâchis, la surproduction. Et vous voyez des fois, subhanallah, par exemple, ils ne vendent pas. Ou alors ils veulent protester parce que les prix ils ont baissé à un tel endroit. Alors ils prennent par exemple des cajots de fraises et ils les jettent dans la rue. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est une caractéristique de ceux qui croient ni à Allah ni au jour dernier. Parce que les pêcheurs en tel pays, ils vendent moins cher. Alors eux, ils viennent et ils jettent des poissons comme ça, subhanallah. Alors qu'un musulman, même ce qu'il y a dans son ongle de nourriture, il n'a pas le droit de le jeter. Et eux, ils jettent comme ça. Donc à qui tu veux ressembler? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors à ceux qui ne croient pas en Allah? Ensuite, Cheikh dit « In lam yahsul hadha kama huwa al-halu fi zamanina min ihmali kathirin min as-sunan fa aqallu ahwali al-akili an yamsaha baqiyat al-ta'ami min yadihi bil manadil التي تلقى بأمكنة طاهرة نظيفة ثم يغسل يديه بعد ذلك والأفضل اتباع السنة.
Il dit, et si la personne ne fait pas ça, comme malheureusement c'est le cas à notre époque, il dit, cher, comme malheureusement c'est le cas à notre époque, que les gens négligent la plupart des sunan, alors au moins il essuie sa main avec, un, avec des serviettes ou des mouchoirs propres qui seront jetés dans des endroits propres. Par exemple, les poubelles à papier. Les poubelles à papier, il n'y a pas d'impureté dedans. Ou alors, des fois, tu as des poubelles où toi, tu mets pas de viande, tu mets pas de. D'ordure entre guillemets, c'est que des choses, par exemple du carton. Alors si au moins, si tu veux pas lécher la nourriture, au moins chez Ridi, tu t'essuies la main avec un mouchoir qui va être jeté avec des ordures propres, des ordures qui sont pas impures, et ensuite il lave ses mains. Mais le mieux c'est de suivre la sunna, c'est à dire de lécher ses doigts. Après il dit shir ba'duhum fahima anna al murada bil'aq al yad ba'd al ta'am anna dhalika li ajli qillati al ma' وأنه جعل اللعق بدل الغسل بدل الغسل حتى لا يبقى على يديه أثر الطعام. Ils disent, certains ils ont compris du hadith, donc je ne sais pas à qui il fait allusion. Ils disent que le fait de lécher la main, c'est parce qu'à l'époque ils n'avaient pas beaucoup d'eau, et que donc au lieu de d'utiliser l'eau, eh ben, il a dit de se lécher les doigts. C'est-à-dire, ça c'est des arguments, hein, pour dire, comme les gens ils aiment bien dire, ouais mais on n'est plus à l'époque, on va quand même pas se lécher les doigts, tout ça. Ça c'était parce qu'ils n'avaient pas d'eau. والحق أن المراد هو الأول والله أعلم. الشيخ الدوكي سي با إتندو إلا دي لا فيريتي سي كو سكي فولو سي سكو نا دي أو ديبي. إي أون بليس أ ليبوك دو بروفيت صلى الله عليه وسلم إيزافي لو. إيفيزي الغوسل أفيك لو، إيزابروفي لور بيت، إيبويفي أو ميم دونك يا با ليو أ دير سا. جاء في البخاري ومسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وتمضمض وقال إن له دسما. Dans les deux صحيح، ذا سي أون فائدة. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bu du lait. Laban, c'est à ce que je connais dans la langue arabe, c'est plus le lait battu. Et après il a fait le madmada, c'est-à-dire il s'est lavé la bouche et il a dit c'est parce que ça c'est gras. Dasam c'est le gras. Qala fil adab ash-shar'iyya lidhalika yanbaghi an yatamadmada ba'dahu bil ma'i min kulli ma lahu dasam li ta'lilihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici tu cites une parole de Ibn Muflih rahimahullah. Dans son livre Al-Adab al-Shar'a, il dit donc qu'il convient de se laver la bouche avec l'eau à chaque fois qu'il mange quelque chose qui est gras. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la cause pour laquelle il l'avait fait, c'est à cause du gras. Donc c'est pas seulement pour le lait battu, mais tout ce qui est gras. C'est combien de temps là ? C'est où le temps ? Ah, ça continue. Hadith suivant, il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمر على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. Donc ça c'est dans les deux sahih. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que le petit ici dans le sens le petit dans l'âge salue le grand, c'est-à-dire la grande personne. Et que celui qui passe salue celui qui est assis, et que ceux qui sont peu saluent ceux qui sont beaucoup. Et dans une version de Muslim, il a rajouté, et que celui qui est sur une monture salue celui qui est salue le piéton. Donc suivez bien l'explication du hadith par rapport à la phrase de Sahih Muslim. Vous allez être étonné de l'explication. Donc il dit Al-hadith yufid al-tartib al-mandoub fi haqq al-bada'ati bis-salam. Donc ce hadith il nous explique comment on doit commencer, qu'est-ce qui est conseillé dans la... qui commence par saluer l'autre. فذكر أربعة أنواع فيها أحدها أن حق التكريمة هي من الصغار للكبار فعلى الصغير أن يجل الكبير ويبدأه بالسلام والتحية. La première chose c'est que ce sont les plus jeunes qui doivent honorer les plus grands. Donc la personne jeune elle doit respecter la grande personne et lui dire le salut en premier. الثاني أن المر الذي يتخطى أمام القاعد هو الذي ينبغي له البداءة بالسلام لأنه بمنزلة القادم عليه. Celui qui passe, c'est lui qui salue celui qui est assis ou alors qui attend. C'est-à-dire même s'il est debout, Mohim il n'est pas en train de marcher. Celui qui marche et il passe devant lui, c'est lui qui le salue en premier parce que c'est comme s'il il venait vers lui. الثالث أن الكثير هو صاحب الحق على القليل.
فالأفضل للقليل أن يكون هو البادئ بالسلام لأن القليل ينوي الجمع كله ببداءة السلام فيشملهم جميعا.
La troisième chose, c'est que dans le salut, ceux qui sont plus nombreux, c'est eux qui ont le droit, donc c'est-à-dire de recevoir le salam en premier. Donc le plus méritoire, c'est que ceux qui sont moins nombreux, ils disent le salam en premier, parce que comme ça, ça englobera tous ceux qui sont plus nombreux. Donc il a la niya de saluer tout le groupe.
Al-Rabi'a, An-Rakiba lahu maziyatu li'atila.
Donc regardez pourquoi. Subhanallah, à chaque fois, on remarque que c'est celui qui a un plus qui a le droit. C'est-à-dire, celui qui est plus vieux, c'est lui à qui on donne le salut en premier. Celui qui est assis, donc il n'est pas comme celui qui est en train de fatiguer à marcher, et celui qui est en train de venir, lui il est déjà là, entre guillemets, c'est lui qui reçoit le salut. Ceux qui sont plus nombreux, c'est eux qui reçoivent le salut. Mais dans le véhicule, c'est l'inverse. C'est celui qui a un véhicule qui va saluer celui qui marche. Alors c'est lui qui a un plus. Donc regardez ici l'explication.
Il dit الرابع أن الراكب له مزية الاعتلاء وفضل الركوب فكان البدء بالسلام من أداء شكر الله تعالى على نعمته عليه ليشعر الماشي بعدم الزهو والكبر فإن عليه أن يتواضع فيبدأ بالسلام على الماشي.
Il dit سبحان الله, il dit parce que celui qui a un véhicule il est supérieur l'اعتلاء, c'est-à-dire il est supérieur notamment dans le surtout les véhicules de l'époque, il est au-dessus de celui qui est par terre, parce que l'autre par exemple il est sur son cheval ou sur son chameau, donc il est au-dessus. Donc il dit, le fait qu'il commence à dire salam, c'est pour remontrer sa reconnaissance envers Allah Azzawajal pour ce bienfait, par lequel Allah il l'a préféré à l'autre, qui n'a pas de véhicule. Et aussi, c'est pour que celui qui est le piéton, celui qui n'a pas de monture, il ne sente pas d'orgueil de la part de l'autre. C'est-à-dire, celui qui va être sur sa monture, eh ben lui, il doit être, comme il est au-dessus, il va faire preuve de modestie pour se, entre guillemets, pour se rabaisser, pour pas que l'autre y soit, entre guillemets, humilié. Donc c'est comme si pour remettre à niveau les choses, eh ben il va dire le salam en premier. Comme ça, il fait preuve de modestie, il se rabaisse quelque part. Puisqu'il est au-dessus de la personne avec son véhicule, eh ben il va faire preuve de modestie et de reconnaissance envers Allah et il va dire assalam en premier. Comme ça, le piéton, celui qui est en dessous de lui, il ne sent pas de supériorité sur lui ni d'orgueil.
قال في شرح الإقناع ويسن أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والماشي على الجالس والراكب على الماشي للحديث.
Donc ici il cite l'Iqna. Donc il cite texto ce qu'on a dit jusqu'à maintenant.
فَإِنْ عَكَسَ بِأَنْ سَلَّمَ الْكَبِيرُ عَلَى الصَّغِيرُ وَالْكَثِيرُ عَلَى الْقَلِيلُ وَالْقَاعِدُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْرَاكِبُ حَصَلَتِ السُّنَّةِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَالْأَوَّلُ أَكْمَلُ فِي السُّنَّةِ لِامْتِيَازِي بِخُصُوصِ الْأَمْرِ السَّابِقِ.
Il dit, mais s'il fait à l'envers, par exemple, c'est le plus vieux qui dit salam au plus jeune, il dit la sunna elle est quand même là, parce que ce qui est voulu dans la sunna c'est de répondre le salam, mais pour parfaire le suivi de la sunna, il faut faire l'ordre qui est cité ici.
هذا إذا تلاقوا في الطريق ونحوها أما إذا وردوا على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقا صغيرا كان أو كبيرا أو راكبا أو قليلا وضدهم.
Il dit, mais ça c'est quand ils se rencontrent dans un chemin. Il dit, mais s'il passe devant quelqu'un qui est assis, c'est-à-dire toujours celui qui passe, il salue celui qui est assis. Même si celui qui passe il est plus vieux, ou si ceux qui passent ils sont plus nombreux que ceux qui sont assis, ou si celui qui passe il est à pied et celui qui est assis il est sur un chameau, lui il dit, la priorité, parce que ça peut se mélanger les cas. Ça peut être quelqu'un qui est plus vieux, mais c'est lui qui passe, donc comment on fait ? Donc là il dit, celui qui est là, c'est toujours lui qui reçoit le salam, quel qu'il soit.
وعن علي, donc le hadith suivant. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي.
هذا الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il suffit pour un groupe
lorsqu'ils passent, que l'un d'entre eux salue. C'est-à-dire, si on a un groupe de 5 par exemple, et on veut saluer quelqu'un, si l'un d'entre nous dit salam, ça suffit. Et il suffit au groupe que l'un d'entre eux rende le salut. Donc, c'est-à-dire, une personne, elle représente le groupe, dans ce qui concerne le salut. Que ce soit donner le salut ou répandre le salut. Répandre le salut. Alaykoum salam. Ça, c'est un hadith qui est dans le Mousnad de l'imam Ahmed et les Sunan de l'imam Al-Bayhaqi. Et Cheikh dit ici notamment, donc il a cité un petit peu par rapport à l'authenticité, que Ibn Hajar, il a déclaré le hadith comme étant hasan, c'est-à-dire authentique. Il dit ici, « Ma yu'khadhu min al-hadith », donc ce qu'on retire du hadith. Donc juste ici, je fais une petite parenthèse. Avant, je le faisais quand je faisais Kitab al-Tawhid à Lille, et là, les frères, ils ont dit que c'était profitable, donc de temps en temps, on peut le faire. Par exemple, ici, quand il dit « Rawahu Ahmed wal Bayhaqi », des fois, c'est bien de savoir, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, l'imam Ahmed, bon, que vous connaissez, quand il dit « Rawahu Ahmed », c'est-à-dire dans le Mousnad. Des fois, vous voyez « Rawahu Ahmed fil Mousnad ». Donc, l'imam Ahmed, lui, son livre de hadith, c'est ce qu'on appelle un Mousnad. Donc, ils disent qu'il a à peu près 40 000 hadiths. 37 000, 40 000. Donc, c'est énormément de hadiths. Mais ce qu'on veut dire par le hadith, dans ce sens-là, c'est à chaque fois le rapport venant d'un compagnon. C'est-à-dire, lui, il peut avoir le hadith avec plusieurs chaînes, ça va compter comme plusieurs hadiths. Même si ça remène au même compagnon et au même hadith. Voilà. Parce que des fois, vous pouvez vous dire, bah, c'est beaucoup, 37 000 hadiths. Alors que là, par exemple, Boulour al-Maram, on en a que 1300. Ça veut dire, il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas. C'est pas ça. C'est parce que, des fois, il compte plusieurs hadiths quand il a entendu le hadith de plusieurs chouyours et que c'est le même hadith. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est un mousnad ? C'est-à-dire les différentes catégories de livres de hadith. Le mousnad, c'est le livre de hadith qui sert surtout à compiler les hadiths. C'est-à-dire, si tu prends par exemple Sahih al-Bukhari, tu peux, si par exemple, admettons, tu es quelqu'un qui comprend l'arabe littéraire, tu peux prendre Sahih al-Bukhari et apprendre ta religion à partir de Sahih al-Bukhari. Tu lis dedans et il te dit comment on fait ci, comment on fait ça, et il te met à chaque fois le hadith. Et en plus, tu sais que celui qui l'a écrit, il a mis comme condition que tout y soit authentique. Donc, tu n'as même pas à distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Pareil pour Sahih Muslim. Sahih Muslim, tu vas apprendre les ablutions, tu prends les ablutions et tu regardes Sahih Muslim et tu fais tes ablutions. Le Mousnad, c'est pas comme ça. Un Mousnad, c'est un livre qui est fait, les chapitres, c'est par compagnon. Donc, par exemple, il va commencer, la plupart du temps, c'est comme ça, comme il a fait l'imam Ahmed, il commence par les 10 compagnons, les meilleurs compagnons du prophète. Donc, parmi lesquels Abu Bakr, Omar, Zubayr ibn al-Awam, Ali, Uthman, etc. Les 10 compagnons qui étaient promis au paradis. Et donc, il te met dans un seul chapitre tous les hadiths de Abu Bakr. Que ce soit un hadith qui concerne les ablutions, ou la aqida, ou la fin du monde, ou le adab, il mélange les hadiths. Le thème des hadiths, il fait pas attention. Lui, ce qu'il veut, c'est te mettre les hadiths qui remontent jusqu'à Abu Bakr. Après, les hadiths de Omar, etc. C'est ça un mousnad. Donc un mousnad, ça sert surtout à compiler les hadiths. Donc les mousnads qui sont le plus connu des massanides, massanid c'est le pluriel de mousnad, c'est le mousnad de l'imam Ahmed. Mais des massanides qui sont importants et connus, et qui, dans lesquels il y a énormément de hadiths, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que le mousnad de l'imam Ahmed. Il y a notamment le mousnad de le muhaddith qui s'appelait Al-Bazzar. Il y a aussi le mousnad de Ishaq ibn Rahawi, qui était l'ami et le compagnon et le contemporain de l'imam Ahmed, et qui était lui-même un imam des musulmans. Il y a aussi le mousnad de Abu Daoud al-Tayalisi. C'est pas Abu Daoud qui a écrit les sunan, c'est un autre. Abu Daoud al-Tayalisi. Le mousnad d'Abu Ya'la. C'est-à-dire il y a beaucoup de massanides. Et par rapport aux massanides, l'information qui est intéressante, c'est qu'après, c'est-à-dire bien plusieurs siècles après les siècles où on récoltait les hadiths avec la transmission et les chaînes de transmission, des ulamas, ils ont décidé de faire un travail par rapport aux massanides. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent par exemple Al-Bukhari, Muslim, les Sunan d'Abi Daoud, les Sunan de Tirmidhi, les Sunan de Nasa'i et les Sunan d'Ibn Majah. Et ils en font ça la base. Parce que ça, c'est dans les 6 grands livres de hadith connus. C'est-à-dire, si le hadith il est dans les Sunan d'Abu Daoud et il est dans le Mousnad de Al-Bazzar, on ne va pas dire Rawahu Al-Bazzar, on va dire Rawahu Abu Daoud. C'est vraiment les 6 grosses références dans le hadith. Ils prennent les hadiths qui sont dans ces 6 livres, et après ils prennent tous les mousnads, ou alors beaucoup de mousnads, des fois 8, des fois 10. Donc ils vont prendre le mousnad de l'imam Ahmed, mousnad d'Al-Bazar, mousnad d'Abu Ya'la, d'Abu Dawud al-Tayalisi, et d'autres encore, que j'ai pas le nom maintenant. Et regardez le travail qu'ils font. Ils regardent dans tous ces masanides, donc il y a des dizaines de milliers de hadiths à regarder, et ils regardent dans les sunan. Ce qu'il y a dans le mousnad, dans un des mousnad ou dans plusieurs, qu'il n'y a pas dans les sunan, ils le mettent dans un livre. On appelle ça Az-Zawa'id. Par exemple, il y en a un, c'est Al-Haythami, donc un des savants de je ne sais pas s'il est avant ou après Ibn Hajar, mais ce que je veux dire, c'est la région. C'est-à-dire parce qu'Ibn Hajar, il y a beaucoup, parmi ses chouyours et ses élèves, les grands muhaddithines qui ont fait beaucoup de livres dans le hadith, qui était l'école un peu de l'Égypte. Il a fait un livre, donc il vous prend tous les mousnads, et tout ce qu'il y a en plus dans le mousnad qu'il n'y a pas dans les 6 livres, il te le met dans un seul livre. Ce qui fait que si tu prends les 6 livres et à côté tu prends ça, eh ben, tu as pratiquement toute la sunna, tous les hadiths. Vous avez compris? C'est comme s'il prend le mousnad de l'imam Ahmed, et il dit, le hadith là, il est dans Abu Daoud, on l'enlève. Le hadith là, il est dans Tirmidhi, on l'enlève. Et il reste que ce qu'il y a dans le mousnad qu'il n'y avait pas dans les 6. Des fois, ça peut être un hadith, carrément. Des fois, ça peut être un supplément au hadith. Ça veut dire, c'est le même hadith, mais un rapporteur, il a ramené une autre phrase, mais il n'y a que l'imam Ahmed qui l'a ramené. Les auteurs des 6 livres, ils ne l'ont pas fait. Eh bien, il va vous la mettre. Donc, si tu regardes les 6 livres, et tu regardes ça, en fait, ça, là, ce travail, Az-Zawa'id, ça te fait vraiment profiter des masanides sans que tu les ouvres. Tu n'as même pas à les ouvrir. Et le livre, il est grand quand même. Mais si tu compares aux masanides tous ensemble, c'est rien du tout. Et en fait, c'est une compilation de ce qu'il y a dans les masanides qu'il n'y a pas dans les sunnans et dans les deux sahihs. C'est un travail énorme. Donc, un des importants qui existe, c'est Majma' al-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id de l'Haythami. C'est pas Ibn Hajar al-Haythami, c'est un autre, mais son nom, je n'arrive pas à vous dire comme ça. C'est un savant du 8e siècle. Et donc, il a fait ça. Il a pris je ne sais plus combien de mousnad. Et tout ce qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas dans les 6 livres, il vous les a mis. Après, ici, Al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi, c'est pas comme Al-Bukhari, Abu Daoud. C'est venu bien après Al-Bayhaqi. C'était au 5e siècle. Mais les hadiths qu'il rapporte, il les rapporte encore avec une chaîne de transmission. C'est-à-dire Al-Bayhaqi, il ne dit pas Rawahu al-Bukhari. Il a sa chaîne de transmission qui continue encore. C'est-à-dire ça a continué encore pendant des dizaines d'années. Et il a fait un livre, quand on dit Rawahu al-Bayhaqi, ce qu'on veut dire par là, c'est son livre As-Sunan al-Kubra. Et c'est un livre qui comporte à peu près 22 000 hadiths. C'est-à-dire, mais il y a des hadiths et il y a des paroles de compagnons dedans. Et c'est vraiment fait avec les chapitres de fiqh. C'est-à-dire, il te dit le chapitre qui dit de faire ça et il te met le hadith, ou les différents hadiths du chapitre. Donc, à chaque fois, Inch'Allah, si on trouve un truc comme ça, par exemple, Rawah ibn Hibban, et si je connais le livre, et à peu près, parce qu'en faculté, on l'a fait tout ça, on a étudié tout ça, je vous en donnerai un aperçu global, c'est toujours bénéfique. Bon, on va lire l'explication de ce hadith, puis on aura fini. Donc, il dit. تقدم أن الابتداء بالسلام سنة كفاية إذا قام به أحد المسلمين كفى عن الباقين وإن حصل السلام منهم كان أفضل. Donc il dit, on a déjà vu que السلام c'est sunna kifaya, c'est-à-dire si une personne le fait quand ils sont un groupe, ça suffit pour les autres. وأن الجواب فرض كفاية, et que la réponse c'est une obligation communautaire, c'est pas seulement une sunna entre guillemets, quelque chose de mustahab. Mais c'est obligatoire de répondre. إذا قام به واحد منهم كفى عن الباقين ولكن الأفضل أن تكون الإجابة من الجميع. Si une personne d'un groupe répond pour le groupe, ça suffit. Même si le mieux c'est que tout le monde réponde. والحديث الذي معنا يبين الحد الأدنى من المجزي. Donc ce hadith il sert à montrer le minimum à faire. قال في شرح الإقناع وابتداء السلام من جماعة سنة كفاية والأفضل السلام من جميعهم لحديث أفش السلام رواه مسلم. Donc là il répète ce qu'on vient de dire. ورده فرض عين على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة مسلم عليهم فيسقط برد واحد منهم. Et le fait de répondre le salam, c'est une obligation. Donc si tu es seul, c'est une obligation pour toi. Et si tu es dans un groupe, c'est une obligation qu'il y ait au moins une personne qui le fasse.
اختلف العلماء في معنى السلام.
Ici, dit les ulama, ils divergent sur la signification de السلام.
فقال بعضهم هو اسم من أسماء الله.
السلام عليك يعني أنت في حفظ الله. تقول الله يصحبك الله معك.
Donc certains ils ont dit, ce qui est voulu dans As-salamu alaykum, c'est le nom d'Allah, As-salam, qui est cité dans le Coran. Donc As-salam, c'est un des noms d'Allah.
Il y en a, ils traduisent, quand vous regardez des livres d'Aqidah qui sont traduits,
parmi les noms d'Allah, As-salam, c'est-à-dire la paix. Mais comme ça, ça ne veut rien dire. Allah s'appelle la paix, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
As-salam, quand on parle d'Allah, on dit As-salam, c'est-à-dire As-salim, an-naqs, wal-uyub, wal-andad, ilakhiri.
As-salam, dans le sens, quand on parle d'Allah, on dit, il s'appelle As-salam,
c'est-à-dire As-salim, celui qui est saint, de tout égal, de toute ressemblance avec quoi que ce soit, de tout défaut, de tout associé, de tout manque, de toute fatigue, etc. C'est ça, As-salam.
As-salam, ça équivaut à quand tu dis Subhanallah, c'est-à-dire tu renies qu'Allah, il est inégal, un manque, un défaut, une fatigue, quelque chose qui lui ressemble. Tu renies toutes les imperfections et tous les défauts à Allah. C'est ça le mot As-salam.
Donc là, ils disent, soit quand tu dis As-salamu alaykoum, tu veux dire le nom d'Allah. Donc c'est comme tu disais, Allah soit avec toi ou tu es dans la protection d'Allah.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ بِمَعْنَ السَّلَامَ أي السَّلَامَةُ مُلَازِمَةٌ لَكْ.
Et d'autres, ils ont dit, non, ici ce qui est voulu, c'est As-salam, c'est-à-dire salam, pas dans le sens que c'est le nom d'Allah, mais dans le sens linguistique, c'est-à-dire, qui veut dire As-salam, c'est-à-dire Salama, j'ai pas un mot pour traduire. Salama, c'est comme la sécurité, le fait d'être sain, sain et sauf, d'être en bon état, en bonne santé. C'est ça, salama. Comme on dit, ma salama ou ala salama. Salama, c'est le fait d'être préservé, d'être bien. Donc, alors à ce moment-là, c'est assalamu alaikum. C'est-à-dire que tu sois préservé, que tu sois protégé, etc.
Donc, on va s'arrêter là, inshallah. Pour aujourd'hui, on continuera samedi à 2h, enfin tout de suite après, voir le plus vite possible, donc vers 2h20, 2h30, inshallah.
On as'alu Allah ta'ala an yufaqihana fi dinihi wa an yarzuqana al-'ilma an-nafi' wal-'amala as-salih wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.